Société, culture, art, alternative. Vous écoutez un podcast Iva Sound Studio.
Bonjour, je m'appelle Christina Wagner et mon métier, c'est... c'est difficile à décrire, mais voilà, sur la fiche de paye, il y a marqué coordinatrice d'association. Voilà, c'est un terme qui cache pas mal de choses.
Portrait de vie culturelle, associative, alternative, bienvenue dans Graines de vie.
Comment tu vas ? Toi, là, maintenant, comment tu te sens ?
Eh bien, je me sens bien. Je viens de prendre le repas avec les collègues au soleil. Donc, du coup, ça fait du bien. C'est, de prendre le soleil à la grainerie. C'est agréable. On discute du travail, mais pas que, aussi d'autres choses. Donc, c'est bien.
Avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire quel pronom tu utilises te concernant ?
Elle. Clairement.
Quand tu étais enfant, quel métier tu pensais faire plus tard ? Quel métier tu voulais faire plus tard ? Quel était ton métier de rêve ?
Eh bien, bonne question. Je n'en avais pas vraiment. Je me projetais dans différentes choses. Je me voyais plus dans la littérature. J'ai grandi en Allemagne et j'aime toujours bien lire. Et je me voyais bien dans un métier autour de la langue allemande ou alors autour de l'éducation. Et effectivement, finalement, j'ai plutôt pris ce versant-là, même si c'est par plein de détours.
Tu étais quel type d'enfant, quel type d'adolescente ? Réservée, extravertie ?
Non, je pense que j'étais plutôt quelqu'un de réservé. J'ai pas eu une adolescence très très extravertie ou très en conflit avec mes parents. J'aimais bien aller à l'école, j'avais un cercle d'amis qui était stable avec qui j'aimais bien traîner, on sortait, mais mes parents me faisaient très confiance aussi sur les sorties, donc ça s'est plutôt bien passé, j'aurais envie de dire. Et par contre, relativement vite, je me suis orientée quand même vers l'artistique un peu. Dans l'école où moi j'étais, on faisait beaucoup de théâtre, on faisait de l'art plastique, on faisait de la peinture, de la sculpture sur bois, sur pierre et tout ça. J'étais dans une école Steiner. Et donc du coup, j'étais très sensibilisée à l'art depuis toute ma scolarité, en fait.
D'accord. C'est quoi une école Steiner ?
Alors, c'est une école avec une pédagogie un peu particulière. La pédagogie dite Steiner. Je ne sais pas s'il était philosophe, mais en tout cas, c'est un gars qui a créé, donc du coup, toute une philosophie autour... Ouais, c'est s'il était philosophe. Autour de l'éducation. Et donc, du coup, il a créé des écoles avec des approches un peu particulières, mais entre autres aussi des approches très artistiques. Et donc, du coup, dans les écoles Steiner, en général, on fait beaucoup d'art, en fait.
Quel était ton parcours d'études ?
Alors, du coup, j'ai passé le bac. Dans cette école Steiner, justement. Et dans le cadre, pareil, de la pédagogie Steiner, on doit, l'année avant le bac, mener un projet. Et un projet sur un an, où on doit écrire un mémoire, soutenir un oral d'une petite heure, où après, ensuite, il y a des questions et tout ça. Et moi, j'ai fait tout ça autour de l'acrobatie et de la danse. En fait, donc du coup, j'ai travaillé avec trois autres camarades de classe. On était un groupe des quatre autour du théâtre de mouvement. Et c'est ça qui a mis un peu la première pierre à ma carrière professionnelle, j'aurais envie de dire, parce que c'est ça qui a vraiment provoqué la vocation de travailler autour du corps. Et après le bac, je suis partie en Suisse, à Zurich, dans une école de théâtre qui s'appelle Comart. Et qui est une école de théâtre qui se base beaucoup sur la méthodologie de Lecoq, ça veut dire c'est un théâtre du corps et où on a fait beaucoup de la danse, de l'acrobatie aussi, on a touché un peu au cirque et après on a travaillé aussi les trucs classiques, travail de texte, travail de de chœur et les bouffons. Enfin, on a balayé forcément tout, toutes les théories, toutes les choses autour du théâtre et du comédien.
Tu as travaillé directement dans ce domaine-là ou tu as fait aussi d'autres boulots en parallèle?
Non, du coup, après ces 2 ans, j'ai fait du théâtre de rue avec des camarades de pareil, de classe de cette école. Et c'est là où j'ai rencontré, où je suis venue dans le sud, à Toulouse, entre autres, et où j'ai entendu parler du Lido. Enfin, de la formation qui aujourd'hui s'appelle Exacto Lido. Et à l'époque, c'était juste le Lido. Et donc, du coup, ça m'a vraiment donné envie de travailler, en fait, d'approfondir ce travail avec le corps à travers la formation du cirque, en fait, au Lido. Après le théâtre de rue, pendant l'été, je suis quand même rentrée en Allemagne. Pour gagner un peu d'argent, j'ai fait les vendanges. Et à la suite des vendanges, je me suis dit, allez, je vais aller voir à Toulouse, qu'est-ce qui se passe. Et voilà. Et je suis arrivée un peu voilà, en stop avec un bon ami à Toulouse. Et ne parlant pas du tout français, parce que dans mon école, j'ai fait du russe et de l'anglais, mais pas du tout du français.
Ah, t'as pris le français sur le tard, d'accord.
Oui, voilà, sur le tard. Et je me suis d'abord inscrite, en fait, à un cours à la fac pour apprendre au moins un tout petit peu les bases du français. Okay. Et puis, avant l'hiver, j'en avais un peu marre de ces cours de français. Je suis allée au Lido et je leur ai dit « Bonjour ». J'ai fait mes 2 ans d'école de théâtre, j'ai très envie de travailler le cirque, voilà. Est-ce que je peux intégrer la classe préparatoire? C'était le nom de la formation pro de l'époque, en fait. Et ils m'ont dit, bon, il faut voir, nanani, mais viens participer au cours pendant une semaine et après on te dira. Et du coup, j'ai intégré la classe et ils m'ont gardé. Et c'est comme ça que, en fait, je suis tombée un peu dans le milieu du cirque ici à Toulouse. Et c'est comme ça après aussi que j'ai développé ici mon réseau professionnel. Et c'est ça qui m'a fait après rester.
Quand tu es arrivée vraiment au tout début de cet univers cirque, tu avais déjà connaissance du milieu, que c'était quand même un milieu artistique assez précaire ou pas?
Je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout le milieu circassien. Je connaissais pas le fait qu'il y a de l'intermittence et tout ça. Donc tout ça, je ne savais pas. Mais en Allemagne, la situation pour les comédiens n'est pas mieux, voire même est moins bien. Donc du coup, en fait, quand j'ai appris que tout le système autour de l'intermittence existe, c'était forcément aussi intéressant à me dire « Ah, peut-être je pourrais en fait devenir intermittent du spectacle. »
D'accord, ça t'a pas inquiété, au contraire, ça a pu te rassurer un petit peu, si je comprends bien.
Oui, voilà. Ouais.
Okay. À travers ces expériences-là jusqu'à cette époque-là, est-ce que tu as aussi eu des expériences dans l'associatif, le bénévolat?
Très peu.
Très peu.
Alors oui, associatif, vraiment très peu. Par contre, dans notre école, Steiner, on était très impliqués. Il pouvait y avoir des week-ends de rénovation d'une partie du bâtiment, par exemple. Et chaque Noël, il y avait un grand marché de Noël pour lequel les familles fabriquaient des choses à vendre. Donc du coup, nous, on participait à ça aussi. Voilà, donc c'est plus par ce biais-là, ça ne s'appelait pas vraiment du bénévolat, c'était l'implication dans la vie de cette école, en fait.
Et qu'est-ce que ces expériences t'ont apporté? Les compétences que tu as pu en tirer?
Oui, du coup, c'était pas mal des travaux manuels, donc du coup, bricoler, travailler le bois... Ça, c'est quelque chose que moi, j'aime toujours bien aujourd'hui. Je le fais pas souvent, mais à manier un peu les machines, connaître, savoir comment poncer, toutes ces petites choses-là, j'aurais envie de dire plutôt à l'aise, et c'est quelque chose que ça m'a apporté, oui.
Des compétences de travail d'équipe aussi?
Non, pas forcément. Non, parce que c'était vraiment dans le cadre familial, en fait. On se
Ah,
retrouvait, donc, du coup,
ok.
avec mes parents, mes frères et sœurs, voilà, on devait fabriquer tant de petits objets à vendre après, des petites mobiles, par exemple. Et donc, du coup, on se retrouvait en famille et on se mettait tous à la chaîne à travailler. Donc,
Ok.
du coup, ces petits mobiles. Mais c'est plus, enfin, si, c'est une forme de travail d'équipe aussi, mais dans le cadre familial, oui.
Après le Lido, quelle a été la suite?
Alors, donc, du coup, après le Lido, j'ai rencontré déjà d'abord le papa de mes enfants et c'est ça qui m'a fait vraiment rester, du coup, aussi en France. Et on a créé d'abord une première compagnie qui s'appelait les établissements Borély. Donc, c'était vraiment une première ébauche, un des premiers essais de création voilà, de personnes sortant d'école. Donc, c'était pas toujours forcément très adroit et ça voulait d'un niveau artistique pas forcément très haut, mais ça avait le mérite d'être vu, d'être montré. Donc on a organisé pas mal de tournées, voilà, en spectacle de rue. Et voilà, et au terme de 2 ans, voilà, ça s'est un peu effiloché, j'aurais envie de dire. Et c'est à ce moment-là où, voilà, je me suis remis en question sur mon travail autour de l'aérien, parce qu'au Lido, j'avais vraiment beaucoup travaillé, du coup, l'aérien, et j'avais plus envie de m'orienter vers le main-à-main. Et du coup, avec le papa de mes enfants, on a commencé à travailler, en fait, les portées acrobatiques. Et on a eu la proposition de bouger vers Auch pour travailler donc avec les fondateurs de la compagnie Vendôtan, qui faisait beaucoup de main-à-main et qui voilà. Du coup, on a déménagé là-bas et d'un pour travailler à l'école de cirque amateur au Pop Circus et en parallèle pouvoir voilà faire du main-à-main avec Rémi Babé. Et ensuite, donc du coup, Rémi Babé nous a proposé d'intégrer leur deuxième création. Et c'est là où on a donc créé un nouveau spectacle qui s'appelait Autour d'elle, qui se passait sous chapiteau et où on a fait donc du coup plusieurs années de tournée en France. On est monté aussi un peu à l'étranger, tout ça, sous chapiteau, en caravane, donc vraiment un vrai cirque, j'aurais envie de dire.
Aujourd'hui, tu es coordinatrice de l'association Par Hasard, qui est une école de cirque adaptée. Comment tu es venue à travailler à Par Hasard?
Alors, justement, donc du coup, après cette période de carrière artistique, la compagnie, elle a un peu implosé suite à différentes raisons que, voilà, des raisons humaines, j'aurais envie de dire. Et donc, je me suis reposé la question, encore une fois, qu'est-ce que je faisais avec ce que je savais faire? Est-ce que j'avais vraiment envie de continuer là-dedans? J'ai eu 2 enfants entre-temps et c'est à ce moment-là aussi où on s'est séparé avec je me suis séparée du papa des enfants. Et donc la question s'est vraiment posée, est-ce que je continue à tourner dans d'autres compagnies? Lui aussi, il continue à tourner. Donc je me suis dit, oui, comment concilier 2 plans de tournée avec les enfants en bas âge dedans et tout ça. Et là, du coup, j'ai fait, non, non, je vais arrêter ma carrière artistique, tant pis, ça s'arrête un peu plus tôt que prévu, mais c'est pas grave. Je vais chercher autre chose. Et c'est à ce moment-là où la Fédération française des écoles de cirque a mis en place le BPJEPS Activité Cirque. Et donc, je me suis inscrite à cette formation qui a duré 1 an, où j'ai rencontré les acteurs de l'AFCA, de l'Association française du cirque adapté. Et ça m'a vraiment ouvert tout un nouveau monde, en fait. Le monde de l'éducation spécialisée, comment adapter le cirque à tout un chacun et toute une chacune. Et surtout, comment voir dans le cirque pas juste une épreuve de performance, mais aussi un outil éducatif, en fait. Et c'est ça qui m'a fait, en fait, prendre le virage. Après, une fois que j'avais fini le BPJEPS, j'ai rencontré les personnes du conseil d'administration de Par Hasard, qui, à l'époque, voulaient mettre en place, donc du coup, qui cherchaient un peu à mettre en place des choses autour du cirque adapté, dans le conseil d'administration, il y avait vraiment cette volonté-là. Et donc, du coup, c'est un concours de circonstances qui a fait que voilà, j'ai rencontré François Bouille, qui était dans le conseil d'administration. Et après, j'ai été embauchée par l'association via un contrat aidé pour développer cette activité qui n'existait pas sur Toulouse, en fait.
Au final, ça raccroche un peu les wagons avec la transmission que tu imaginais déjà beaucoup plus jeune.
Exactement, voilà, c'est ça. Donc, du coup, il y a eu un détour ou en tout cas un pan de la vie plus sur le versant artistique et le deuxième plus sur le versant éducatif. Ouais.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu as plusieurs casquettes au sein de Par Hasard ?
Oui, on peut tout à fait dire ça. J'ai d'un côté une casquette de pédagogue qui est très présent, dans laquelle je m'éclate vraiment. Même après, je suis là depuis 2009, donc du coup, après une bonne dizaine d'années de pédagogie, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit toujours et où je m'y retrouve, où j'y vois un vrai sens. Après, il y a toute la casquette plus autour de la gestion de la structure que je porte aujourd'hui aussi et... tout ce qui est autour des richesses humaines. La comptabilité, c'est pas moi qui le mets directement, mais toute la... driver en fait, coordonner l'équipe et tout ça, ça c'est là où un jour n'est jamais pareil que le lendemain.
Ah ben justement, j'allais te demander, est-ce qu'il y a une journée type de ton travail?
On ne peut pas vraiment dire ça, non. Ça change énormément mes journées. Je peux être avec des politiques le matin, avec des personnes en situation de handicap l'après-midi. Le lendemain, je vais être avec la comptable. Le surlendemain, je suis en formation où je donne des cours à des adultes de l'école Ergo, par exemple. C'est vraiment extrêmement varié, ce que je fais. Et c'est ça aussi la grande richesse, même si des fois, c'est un peu... on ne sait plus où donner la tête, mais c'est très riche. Et moi, je sens que j'aime bien travailler aussi dans cette urgence-là, de se dire, ah oui, là, je vais aller au château de Seille à Rochemontès dimanche avec un groupe de 15-20 bénévoles pour animer la journée des fêtes des jardins. La semaine d'après, je vais être avec les étudiants de l'école ergothérapie qui vont bénéficier d'une journée autour du cirque comme outil de médiation, en fait. Et ce matin, j'étais avec des personnes, des financeurs. Donc, c'est vraiment très varié.
Depuis que tu fais ce métier ou depuis que tu es vraiment dans ce domaine-là, est-ce que les méthodes de travail ont changé ?
Je pense que oui. Alors, notamment, j'aurais envie de dire au niveau de la communication, ça a quand même beaucoup bougé. Depuis 2009 que je suis arrivée à Par Hasard, très concrètement, on imprimait beaucoup plus d'affiches, beaucoup plus de fly. On partait en ville, coller les affiches dans les commerces et tout ça, on le fait quasiment plus. On le fait encore un tout petit peu, mais rien à voir avec l'époque. Et toute la communication avec le community management, tout ça, c'est complètement différent. Et bon, après aussi, toute l'utilisation d'outils numériques, de plateformes numériques en lien avec... l'assurance, la boîte qui nous fait les fiches de paie, tout ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup développé et beaucoup déshumanisé aussi.
D'accord.
Donc, pour avoir quelqu'un au téléphone, si on a des questions, c'est pas forcément toujours simple. Et c'est pour ça, Par Hasard aussi, on défend les inscriptions en présentiel. On fait les inscriptions, pas via des plateformes. Les réinscriptions, oui, mais pas les inscriptions.
Tu as évoqué tout à l'heure le fait que tu pouvais discuter avec des politiques. Les politiques ont tendance à changer selon les élections. Quel rapport tu as avec ces gens-là?
Toi,
ou la structure, bien sûr.
Ouais. Alors, les politiques avec lesquelles on a pu nouer un peu du lien, c'est vraiment ceux du pôle handicap. Donc, c'est un pôle volontariste que la mairie de Toulouse, de façon volontaire, a décidé de développer parce que ça ne fait pas vraiment partie de leur mission à la base. Et donc, du coup, quand moi je suis arrivée à par hasard, c'était une dame qui était vraiment très, très investie et qui, voilà, qui était un peu rentrée dedans, mais en même temps, elle était très honnête. Aujourd'hui, c'est Monsieur Alves avec qui, voilà, le lien, il est beaucoup plus, comment dire,
formel.
Voilà, formel et politique, justement. On les rencontre de temps en temps, on ne les voit pas beaucoup, mais les liens ne sont pas très, très chaleureux, j'ai envie de dire. Après, ils sont très gentils, ils font aussi un peu ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas une marge de manœuvre très grande, notamment en ce qui concerne les financements. Le Pôle handicap a une enveloppe budgétaire de 25 000 euros, donc du coup, pour toutes les associations qui font du handicap sur Toulouse, donc c'est pas grand-chose.
Justement, est-ce que tu veux bien expliquer rapidement comment fonctionne par hasard vis-à-vis des financements, comment l'asso gagne de l'argent?
Alors, donc, du coup, notre association vit vraiment grâce aux prestations ou grâce aux activités qu'on propose. Donc, du coup, il y a d'un côté l'école de cirque amateur inclusif et de l'autre côté, il y a le cirque adapté en lien avec les institutions médico-sociales, en fait. Et donc, ça, dans notre chiffre d'affaires, ça représente à peu près 2/3. Et après, il y a 1/3 qui arrive par des subventions, par des appels à projets, par des coûts, des soutiens, du mécénat, par des fondations. Donc, c'est très divers et varié. Et voilà. Donc, du coup, c'est... ouais, voilà, en gros, c'est ça.
D'une année sur l'autre, la structure n'est pas certaine à chaque fois d'avoir les financements, si je comprends.
Oui, voilà. Ouais. D'autant, étant donné qu'on fonctionne pas mal avec... on répond beaucoup à des appels à projets. Un appel à projet, c'est des one-shots. Et pareil, les fondations, c'est un peu des loteries, en fait. Des fois, on a un coup de bol et là, on a 10 000 euros qui tombent. Et l'année d'après, ça va... Il faut trouver les 10 000 euros ailleurs. Donc, du coup, c'est... c'est pas simple de jongler avec ça. Et par contre, voilà, au jour d'aujourd'hui, notre politique, c'est vraiment de garder aussi les tarifs accessibles à tous. Et donc, on ne peut pas augmenter les tarifs comme on devrait le faire. Il faut vraiment qu'on trouve du soutien ailleurs aujourd'hui.
Oui, c'est pour ça que vous avez lancé une campagne de dons.
Voilà, c'est pour ça qu'on a lancé en septembre une campagne de dons, qui est toujours en cours d'ailleurs. Mais voilà, là, on a d'autres activités dans la structure actuellement. On va vers notre événement de fin d'année du 7, 8, 9 juin, qui s'appelle les Amat en scène. Donc, la campagne de dons est mise un peu de côté parce qu'on a d'autres priorités à gérer là.
Bon, l'asso a des difficultés, comme beaucoup dans le secteur culturel et social. Mais elle est toujours là et on peut la qualifier d'indispensable et d'importante et qui fait du bien au final.
Tout à fait. On se rend compte qu'on fait du bien. Oui, on peut dire ça. Pas plus tard que jeudi matin, un des jeunes qui vient avec un CMP nous dit « Ah, quand je repars de par hasard ou de mon cours de cirque, ça me donne de l'élan et la pêche pour la journée ». Rien que d'entendre ça, ça fait chaud au cœur et on se dit oui, il faut continuer, il faut qu'on puisse arriver à rester là et à proposer tous ces ateliers. Voilà. Et c'est là où je vais venir sur la salutogenèse, justement, parce que la dernière fois, on a été pris de court et je me rattrape, j'ai révisé.
Allez écouter le podcast Radio Caravane si vous ne l'avez pas écouté entre-temps.
Voilà, et donc du coup, la salutogenèse s'appuie vraiment, en fait, ou regarde d'où vient la santé, d'où vient le fait qu'on soit bien et qu'on soit en bonne santé et comment on peut renforcer le fait d'être en bonne santé versus la pathogenèse qui va plutôt regarder d'où vient la maladie et qu'est-ce qu'on fait pour l'éviter. C'est les approches quand tous les médecins, on a mal quelque part, ils regardent d'où vient la maladie. Au lieu de qu'on va aller voir un médecin et on lui dit « Ah, j'ai super la pêche » et le médecin va dire « Ah, ça peut venir de là et de là et de là peut-être ». Voilà, donc du coup, on a l'impression en tout cas de contribuer un peu à cette salutogenèse. On essaye de créer du bien-être chez les personnes qui viennent chez nous et régulièrement, on a ces retours-là quand même, que les gens, ils sont très contents de pouvoir venir, et notamment les accompagnants et les accompagnantes des groupes, des personnes en situation de handicap ou à besoins spécifiques, peuvent nous exprimer leur surprise de ce qui se passe dans les ateliers, que les gens n'ont pas les mêmes comportements qu'en dehors de l'atelier cirque. Donc, il se passe visiblement, réellement quelque chose où, voilà, nous, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, mais grâce au cirque, il se passe des choses, oui.
Est-ce qu'on peut dire que tout s'est bien fait au final? Ça peut apporter du positif économiquement dans la vie de la société. Disons que des personnes qui viennent participer à un atelier, ça leur fait du bien. Donc, elles auront peut-être besoin de moins aller chez le médecin ou de prendre des médicaments, tout ça.
Alors, c'est ça qu'on est en train de travailler avec le DLA. Voilà. Donc, du coup, on a lancé donc un dispositif local d'accompagnement pour nous aider à revisiter notre stratégie financière, parce qu'elle ne fonctionne, notre modèle économique ne fonctionne plus aujourd'hui. Et donc, elle a, en discutant avec nous, elle a dit, il faut arriver à faire comprendre aux politiques exactement ça. Le fait que les gens ils puissent venir à des ateliers de cirque voilà, pratiquer du cirque, ça évite un coût à la société. Mais ça, pour ça, il faut arriver à le mesurer avec des indicateurs précis et tout ça. Et c'est ça qu'il faut. Voilà, c'est là où je pense qu'on a du pain sur la planche et c'est ça qu'on espère pouvoir communiquer à nos financeurs dans un deuxième temps. Oui.
Est-ce que tu as, dans tout ton parcours, est-ce que tu as déjà eu des coups durs où tu t'es dit là j'ai vraiment du mal et comment tu t'en es relevé?
Alors oui, forcément j'ai eu des coups durs. Comment je m'en remets? Alors j'ai deux remèdes, j'aurais envie de dire. Il y en a une qui est assez connue, c'est la psy. Voilà, ça me fait quand même beaucoup de bien.
Il n'y a pas de honte.
Et voilà, non, j'en ai absolument pas. Plutôt au contraire, je le vois vraiment comme un investissement à long terme. Donc, je le conseille à tout le monde et de ne pas attendre, vraiment. Mmh. Et même si ça coûte cher et même si ça nous saigne, ça vaut le coup. Et la deuxième, c'est d'aller marcher en montagne. Ça, c'est vraiment très ressourçant pour moi. Voilà, pendant des périodes de crise de ma vie, je partais seule, je partais marcher, je montais les sommets, je dormais au refuge. Voilà, parce que vraiment, ça me fait beaucoup de bien.
Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ton travail?
Qu'est-ce que j'aime particulièrement? J'aime bien être en présence avec les personnes avec lesquelles je travaille, donc mes collègues et aussi mes élèves, que ça soit des enfants, des ados, des adultes, des personnes en situation de handicap ou pas, parce que j'ai vraiment l'impression de partager quelque chose avec eux en fait. D'un côté, de donner ce que je sais faire, mais d'un autre côté, d'apprendre aussi, en fait, d'eux. Et je crois que cet échange-là aussi, avec mes collègues, fait que je suis toujours là, en fait.
Si on devait prendre du recul sur tout ton parcours, sur ta vie pro, quel regard tu as? Quel regard tu portes sur tout ça? Sur ton évolution?
Ma carrière, par exemple. Alors, la notion de carrière, je l'ai jamais eue, en fait. J'ai jamais visé. J'ai jamais eu cette notion-là de monter les échelons, de créer ma carrière comme on en parle, justement, au lycée. Oui, il faut mettre tous les œufs dans le bon panier pour pouvoir rentrer dans telle école ou faire ça, l'orientation, tout ça. J'ai jamais été là-dedans, vraiment pas. Avec un métier que j'ai choisi à la base, comédienne. Si, on aurait pu se dire, je veux devenir actrice de film ou de spectacle. Enfin, voilà. Ça m'a jamais trop soucié, en fait. Et je crois que c'est ce qui m'importe vraiment, et c'est là où je, où si on, voilà, si on porte un regard un peu plus loin, où, où je suis contente, c'est vraiment ce, ce lien-là avec, avec l'autre qui me tient beaucoup à cœur et qui me fait vibrer, en fait. Et j'ai l'impression qu'autant dans le, dans, dans le travail artistique, je pouvais l'avoir, mais de façon très différente qu'aujourd'hui je l'ai avec, avec, le, avec, avec, bah, avec mon entourage, en fait. Et la deuxième chose, c'est le côté créatif, en fait. Donc, le côté créatif qui était vraiment la créativité. Enfin, j'ai vraiment besoin d'être créative, en fait, dans ce que je fais. Et c'est drôle parce qu'au début, quand j'ai commencé à travailler par hasard, on m'a demandé, enfin, mon entourage de, des collègues artistes me demandait, mais bon, ça te manque pas de monter sur scène, d'être créative et tout ça. Et moi, je disais, j'ai l'impression d'être deux fois plus créatif là, maintenant, que quand j'étais artiste de cirque, de par le fait que quand on est avec des publics à besoins spécifiques, on doit être créatif en permanence, on doit adapter en permanence, on prévoit son spectacle, sa séance, et après, on verra bien, ça reste du spectacle vivant, en fait, les cours. Mmh. Et voilà, donc ça, c'est un peu la deuxième chose qui est très présente.
Quelle est ta vision de la culture et de la société aujourd'hui ?
C'est une grande question aussi, parce que d'un côté, pour moi, enfin, une société sans culture, c'est juste inimaginable. Et d'un autre côté, de continuer la culture telle qu'elle existe, ou telle qu'elle existait jusqu'à maintenant, me paraît aussi inimaginable de par le fait que si on regarde voilà, l'évolution climatique, les changements qui doivent être forcément inhérents voilà, à un maintien d'un espace de vie sur Terre, en fait, on doit forcément aussi adapter notre vision de la culture et notre façon de faire. Et donc voilà, pour l'instant, je me pose des questions sur comment la culture puisse survivre dans tout ça. Et j'ai forcément pas de réponse. Mais à mes yeux, oui, la culture, il faut qu'elle soit présente.
Comment tu imagines ta vie professionnelle et ou personnelle d'ici quelques années ?
Je sais pas. D'un côté, j'espère par hasard. D'un autre côté, aujourd'hui, on ne sait pas. Voilà. Je botte en touche à cette question. J'ai du mal à me projeter. D'un côté, je me dis, voilà, on va arriver à trouver des solutions pour rebondir par hasard et on va pouvoir continuer l'aventure. Des fois, on s'est dit, oh non, on ne va pas y arriver. Et du coup, voilà, je ne sais pas trop.
Pour terminer, que voudrais-tu dire à la jeune génération d'aujourd'hui ?
Alors, qu'est-ce que je voudrais leur dire ? Que vous n'êtes pas en sucre et quand il pleut, vous n'allez pas fondre. Que oui, voilà, ça fait partie de la vie, que c'est dur et que des fois, on se sous-estime soi-même. On se dit, ah, je peux pas, ah non, là, j'ai mal, ah non, là, je suis fatiguée. Et que non, en fait, vous n'êtes pas fatiguée, c'est juste une impression. Que la flemme, c'est une illusion aussi, ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais bien vous donner. De faire ce que vous aimez faire et de faire là où vous êtes bon et pas forcément non plus toujours faire écouter que ce qu'on vous dit de faire, mais qu'il y a aussi, il y a vous et c'est ce que vous savez faire et de vous faire confiance.
Pour retrouver les actus et soutenir Par Hasard, le site
www.parhasard.org et avec après on a un Instagram. ART, oui. Et on a Instagram, pareil, par Hazart, H-A-Z-A-R-T, et un Facebook aussi. Merci, à bientôt, cordialement, bisous.
Merci Tina.
Avec plaisir, merci à toi.
Vous venez d'écouter Graines de Vie, un podcast proposé par l'association Iva Sound Studio. À la rédaction et à la réalisation, Guillaume P. Ce programme est placé sous licence Creative Commons, attribution, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Retrouvez les autres productions et podcasts sur le site ivasoundstudio.com.